Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro. On va parler vidéo dans cet épisode et j'ai vraiment le plaisir d'avoir avec moi un expert, c'est Slim Benati, il est vidéo content manager à l'AS Monaco. Salut Slim.
Salut Fabrice.
Salut, merci d'être avec moi pour cet épisode.
Bah écoute, merci à toi pour l'invitation, c'est un grand plaisir.
Bah, c'est vraiment à moi que ça fait plaisir et en plus bah, y a une belle actualité, hein, l'AS Monaco, le club dans lequel tu travailles, quatrième du championnat aujourd'hui, à 2 points du troisième le PSG, à 3 points du deuxième Lyon, ça laisse présager une belle fin de saison.
Oui c'est vrai, une fin de saison qu'on espère excitante, la dynamique du club, de l'équipe est très bonne et forcément nous, je dirais au digital, à la communication, c'est un plaisir d'accompagner la bonne marche du club. On est vraiment là en support pour soutenir tous ces bons résultats. Et quand ça se passe bien, comme cette saison, bah, c'est un grand plaisir.
Ouais, c'est d'autant plus remarquable cette saison que bah, le contexte s'y prête pas trop. Hein. Avec la crise sanitaire, on n'a pas d'ambiance dans les stades. Ça sonne vraiment très, très creux. J'imagine que ça doit vous compliquer encore un petit peu plus la tâche de votre côté.
Ouais, c'est une saison particulière, pour pas dire bizarre. Je crois que le mot est... même faible, quand on va dans des grands stades, des grosses affiches, typiquement on avait le PSG la semaine dernière, ou des matchs contre Marseille, même Nice, le derby, et qu'on n'a pas cette ambiance, bah oui, on perd un peu l'essence du football. Ça manque à tout le monde, nous, club, mais aussi, je dirais, aux supporters. Et forcément, il faut s'adapter, ça fait un an qu'on s'adapte, ça permet peut-être de voir les choses différemment, de se renouveler constamment, de se creuser beaucoup plus. Du coup, ça reste passionnant, mais voilà, c'est clair que c'est une situation inédite et particulière.
Ouais, c'est clair, ouais. Bah écoute, on espère qu'on pourra tourner la page très rapidement, en tout cas. Alors, je vais te laisser te présenter, Slim. C'est quoi un vidéo content manager? Explique-nous un petit peu, et puis explique-nous aussi qui tu es, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as pu faire pour arriver où tu es aujourd'hui.
Bah écoute, moi, c'est déjà ma huitième saison à l'AS Monaco. Je suis arrivé en juillet 2013, juste après le retour du club en Ligue 1. Donc j'ai commencé au club en tant que JRI, rédacteur sur le site, et on faisait un peu aussi de réseaux sociaux parce que l'équipe était pas aussi étoffée qu'elle peut l'être aujourd'hui. Il y a 2 ans et demi, donc j'ai été promu, comme tu le dis, vidéo content manager. Donc l'idée, c'est un peu d'impulser toute la production vidéo du club avec une superbe équipe, évidemment, parce que il y a des gens très talentueux au sein du club. Il y a plusieurs corps de métier, que ce soit des JRI, des monteurs, des motion designers. On est évidemment un collectif, sinon ça ne marcherait pas. Et l'idée, bah voilà, c'est de déterminer une stratégie de contenu vidéo pour donner à la fois de l'information à nos fans, au grand public, aux médias, mais surtout, je dirais, de l'entertainment. Vraiment, plus que jamais, on a besoin de divertir les gens, de les retenir, de donner une bonne image du club. Donc, sans oublier aussi l'international, grosse partie chez nous, donc dans la stratégie.
Ah oui, bien sûr, l'AS Monaco, alors pour ceux qui connaissent un peu le sport, et c'est un club vraiment tourné vers l'international. Vous avez des joueurs, des superstars de tous horizons. Vous avez vraiment, ça se voit d'ailleurs sur vos réseaux sociaux, hein, vous avez une vraie communauté polyglotte, on va dire.
Ah oui, oui. Alors moi, quand je suis arrivé au club, on avait déjà Falcao, Rames notamment. On était très présent en Amérique du Sud avec la Colombie, puis entre-temps, le club a vraiment accéléré sur le digital. On a lancé des comptes en arabe, en russe, en espagnol, en portugais. Là, tout récemment, on est allé au Japon et en Indonésie, donc ça a beaucoup évolué et ça a vocation à encore beaucoup grandir.
Ouais, alors justement, explique-nous un petit peu quelle est l'importance du média vidéo dans votre stratégie sur les réseaux sociaux. Comment vous positionnez ce média?
Bah, c'est évidemment un média clé, pas que pour nous. Je pense qu'aujourd'hui, grosso modo, la vidéo représente 80% des contenus en ligne. Alors sans dénigrer les autres médias qui sont très importants, et je dirais que chaque média a sa spécificité. On pourrait pas se passer du son, des articles, du website. Mais c'est clair que la vidéo, c'est là qu'on retrouve les meilleurs taux d'engagement, les clics, les j'aime, les partages, les commentaires. Et comme on dit souvent, une image vaut 1000 mots. J'ai aussi envie de dire qu'une vidéo de 60 secondes vaut environ 1 million de mots. Donc ça représente un peu l'importance de la vidéo. Et je dirais aussi que c'est le média le plus apprécié par les internautes parce que, entre guillemets, ils sont devenus plus flemmards aujourd'hui. Si tu leur mets un article ou une vidéo, allez, il y a 9 chances sur 10 qu'ils préfèrent regarder la vidéo.
Ouais, comment tu l'expliques, ça, justement, ce phénomène un petit peu de... c'est de la flemmardise, comme tu dis. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'une vidéo engagerait plus qu'une image? Finalement, l'image, c'est beaucoup plus simple. T'as juste un cliché avec quelques lignes de texte. C'est peut-être ce qui, normalement, devrait avoir le plus de retours.
Moi, je dirais qu'il y a deux choses. La première, pour moi, la vidéo, elle englobe en même temps l'image, le son, et voire même le texte, dans un seul format. C'est un média que je trouve beaucoup plus complet, pour répondre le plus simplement possible. Et après, moi, je dirais, mais c'est ma sensibilité personnelle, c'est que c'est un média où tu peux avoir plus d'émotions, je pense. En tout cas, moi, en tant que créateur de contenu, c'est ce que je vais essayer de transmettre par des ambiances, de la vie, de la joie, du rire. Je pense que c'est un média où voilà, il est plus facile de vivre les émotions.
Alors justement, c'est un média, c'est vrai, qui est très engageant, parce qu'il est beaucoup plus sensoriel. C'est sûr que l'image, donc comme tu le précises, hein, c'est juste la vue. Hein, alors qu'avec la vidéo, tu as l'ouïe en plus, qui est important. Tu peux avoir une ambiance, tu peux sentir une ambiance que tu vas pas ressentir effectivement sur l'image. Alors, tu nous as évoqué une problématique, enfin, c'est pas une problématique de ton côté, mais ça peut en devenir une quand on fait de la vidéo. Comment vous gérez le fait que vous ayez une communauté qui soit aussi diverse? Donc, tu nous as dit qu'il y avait l'anglais, l'espagnol, l'arabe, peut-être des langues asiatiques. Comment vous arrivez à gérer ça au niveau de la vidéo?
Il y a plusieurs choses. Déjà, je dirais qu'il y a des contenus, typiquement, tout ce qui concerne les matchs, les buts... Ben finalement, ça, c'est international, parce que tu n'as pas ce problème de la langue, tu peux communiquer à tous. Après, pour le reste, l'idée, c'est de s'adresser à l'audience la plus large possible. Et typiquement, si tu fais une interview, je prends un exemple d'un joueur français, et que tu vas pas sous-titrer, ben, tu vas t'adresser qu'à des Français. Alors, c'est difficile, il faut de la ressource, on s'est beaucoup amélioré sur cet aspect, mais l'idée, voilà, c'est de parler à tous, donc on va sous-titrer en anglais, on va sous-titrer dans d'autres langues, toutes celles que je t'ai citées, on a vraiment un gros travail qui a été mis en place pour vraiment parler à tous.
Ok, combien de vidéos vous produisez par mois aujourd'hui?
Je dirais que ça dépend des plateformes, il y a des plateformes forcément où on a un plus gros volume, typiquement Facebook et Twitter, à l'AS Monaco on est sur une cinquantaine de vidéos, entre 50 et 60 selon les mois et l'actu. Après il y a des réseaux où typiquement YouTube ou même Instagram on a un peu moins de volume, mais voilà, dans l'idée en moyenne c'est 50 vidéos par plateforme et on essaye vraiment de ne pas dupliquer les mêmes contenus sur les mêmes plateformes. Comme tu le sais, chaque réseau a sa spécificité. Typiquement sur Twitter, Instagram, TikTok, tu vas être sur des formats très courts, alors que sur YouTube, tu vas être sur du format plus long, ou Facebook. Donc l'idée, c'est de ne rien dupliquer. Et si tu additionnes tout, ça doit donner quelque chose comme 200 vidéos dans le mois, à peu près.
Waouh, c'est juste stratosphérique, hein, pour ceux qui nous écoutent, ils doivent se dire comment ils font pour produire autant de vidéos. Alors déjà, il faut avoir du contenu, bien sûr, il faut avoir des équipes, on va en parler un tout petit peu plus loin. En tout cas, en plus, ce que tu nous dis d'important, là, c'est un point fondamental, hein, essentiel dans la stratégie social media. Ça, il faut bien le comprendre, vous ne faites pas de contenu dupliqué, donc vraiment, vous faites un format différent par plateforme.
Ouais, on essaye, parce qu'il y a typiquement, tu prends un exemple sur Instagram, les Reels, c'est du format vertical, donc tu es obligé de passer par ce format, tu ne dois pas dépasser 30 secondes, donc déjà tu es obligé de créer un format pour un Reels, une story c'est 15 secondes, donc oui vraiment, on peut raconter une histoire, mais sur une histoire tu peux la décliner de, je vais pas dire de millions de façons, mais voilà, tu peux vraiment y aller et tu peux très bien faire un 13 minutes comme tu peux extraire 10 vidéos de 10 secondes pour Twitter.
Ok, non, c'est encore plus remarquable de pouvoir faire autant de contenus variés et en plus les adapter par plateforme. Mais ça, c'est vraiment une bonne pratique. Ne pas faire de duplicate content, ne pas reprendre une vidéo pour l'exporter sur tous les médias parce que chacun d'entre eux a ses codes, a ses habitudes au niveau des internautes. Et effectivement, en général, les algorithmes n'aiment pas ça en plus qu'on fasse des choses un petit peu qui soient pas trop habituelles sur leur plateforme. Dis-nous, Slim, au niveau des réseaux sociaux, qu'est-ce qui engage le plus à votre niveau? C'est quoi? C'est plutôt TikTok, Insta, Facebook, c'est quoi? YouTube?
Bon, le réseau qui a le vent en poupe en ce moment, c'est TikTok. Il y a une croissance, je dirais, exponentielle. C'est assez incroyable de voir ça. Après, Facebook, c'est vrai qu'au niveau du club, c'est là où on a la plus grosse base aujourd'hui. Forcément, c'est un réseau où on est présent depuis plus longtemps, depuis quasiment une dizaine de saisons. Donc, c'est assez logique aussi. Après, moi, j'aime bien Instagram. Instagram, pour moi, c'est un réseau aussi qui regroupe peut-être plus de contenu. Il y a de la photo, il y a des visuels, il y a des vidéos, il y a plusieurs formats de vidéos possibles. Il y a aussi des très très bons scores. Voilà, il y a beaucoup d'engagement sur Instagram.
Quel type de contenu vous produisez, Slim? Tu nous as dit que vous produisez 200 vidéos par mois et c'est juste incroyable. Où est-ce que vous trouvez l'inspiration, quoi? C'est quoi? C'est des résumés de matchs, des interviews de joueurs? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se répartit un petit peu?
Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, tu l'as dit en disant le mot inspiration, je crois qu'il y a les idées qu'on peut avoir au quotidien. Comment on essaye d'être créatif, d'inventer des histoires, des concepts. Typiquement, bon, un joueur qui signe au mercato, qu'est-ce qu'on essaye de faire pour son arrivée? Après, il y a une partie qui est plus facile et où on est bien aidé quand ça marche sur le terrain, c'est tous les contenus autour des matchs. Qu'est-ce qu'on fait avant le match? T'as les vidéos, je dirais, historiques, les buts des anciens. On a mis en place récemment des takeovers sur Instagram où on donne la parole à d'anciens joueurs. C'est une rubrique très appréciée. Qu'est-ce qu'on fait le jour du match, l'arrivée des joueurs, un après-match dans les vestiaires, ça se passe bien, les buts évidemment, parce que sur un match d'une heure et demie, les contenus sont déclinables, je dirais, presque à l'infini. Les résumés, les gestes, les compiles par joueur, enfin, il y a des possibilités qui sont vraiment très larges. Et après, selon l'actualité, la forme de chacun, oui, la semaine, on peut avoir des interviews, à l'occasion des petits défis, des petits duels entre joueurs, des rencontres avec les fans. Enfin, on essaye de varier, hein. Le but, c'est de pas se cantonner à une seule rubrique, c'est de mettre de la variété dans nos contenus.
Ouais, la variété, ça c'est un point fondamental, hein, tu le dis. Effectivement, sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de pire que la routine, hein, clairement. Et alors, c'est vrai que souvent dans les structures sportives, alors pas dans les grands clubs comme les tiens, mais sur les petites structures sportives, elles manquent parfois de contenu. Alors on se retrouve souvent à voir le jeudi ou vendredi, c'est l'annonce du match du week-end. Ensuite, le samedi, ça va être une image du match. Et puis le dimanche, ça va être une capture d'écran de la presse locale pour dire voilà, on a gagné ou on a perdu. Et évidemment, si c'est ça tous les week-ends, ça va être vite rébarbatif. Et c'est pour ça que souvent les clubs ont très peu d'engagement. Alors ce qu'on peut retenir de ce que tu nous donnes comme conseil, c'est peut-être applicable dans d'autres clubs, de clubs amateurs, mais aussi dans des entreprises. Par exemple, tu nous as évoqué le mercato. Quand tu as un joueur qui arrive, alors qu'est-ce que tu peux raconter sur l'histoire de ce joueur? Et si vous avez une nouvelle personne dans votre équipe, vous avez un nouvel employé, vous pouvez tout à fait, pourquoi pas, faire un zoom qui l'aide, où il vient, voilà un petit peu son parcours. Ça peut être très sympa, puis ça permet à vos clients ou à vos contacts de connaître un petit peu les hommes qui sont derrière les produits. Et puis tu nous as évoqué aussi un point essentiel, Sim, c'est les coulisses. Le côté un petit peu ce qu'on appelle les backstage, quoi, ce que les autres ne voient pas. Alors à l'ASM ou à un grand club de foot, on rêve un petit peu de connaître un petit peu la vie du club et la vie des joueurs hors pelouse. Ça, c'est valable pour votre club amateur, c'est valable aussi pour votre entreprise. Les coulisses, un peu la préparation d'un nouveau produit, d'une nouvelle campagne, ça peut aussi passionner, intéresser au moins vos clients ou vos fans les plus fervents. Slim, pour produire autant de contenu, vous êtes combien dans les équipes? T'es pas tout seul, c'est pas possible.
Impossible, et ils ont beaucoup de talent. On a une belle équipe. Alors actuellement, on a une équipe au quotidien, je dirais, de 4 personnes, hein, composées de, comme je disais, de JRI, de monteurs, de motion designer, plus moi-même et notre photographe responsable artistique qui mettons aussi la main dans le cambouis sur certains types de contenu. Donc ça peut aller jusqu'à 6 personnes aujourd'hui dans l'équipe de production. Et j'oublie pas aussi nos collègues de la distribution, parce que produire du bon contenu, c'est une chose, mais on le fait main dans la main avec eux, c'est-à-dire qu'on regarde en amont les bonnes pratiques, ce qui marche, ce qu'on doit faire. Il y a vraiment un travail d'analyse qui est indispensable. Et eux, derrière, gérer sur la partie distribution, c'est eux qui vont dispatcher le contenu. Mais c'est vraiment un travail d'équipe, géré dans une chaîne bien, bien huilée, où chacun a un rôle important.
Moi, ce que je retiens en tout cas, Slim, de ce que tu es en train de nous dire, c'est que la qualité de production que vous proposez aujourd'hui à vos internautes, elle est vraiment, vraiment remarquable. En tout cas, moi, j'engage vraiment nos auditeurs à aller regarder vos contenus. Ils sont vraiment de qualité. C'est super qualitatif. Vous avez de la diversité, vous avez de la fréquence, vous avez de la régularité, vous avez de la profondeur. Enfin, vous faites vraiment du contenu qui est tip top. C'est pour ça que je voulais vraiment t'inviter dans cet épisode. Et ce qu'on peut retenir de ce que tu nous dis aussi, la bonne leçon qu'on pourrait tous reprendre de ton expérience, c'est que c'est un travail d'équipe. Personne ne peut tout faire tout seul, c'est impossible d'être bon partout. Il vaut mieux être bon sur un point ou deux et puis ensuite s'appuyer sur d'autres personnes autour, mais ne pas tomber un petit peu dans la simplicité de dire je vais tout faire, je vais faire la photo, la vidéo, le montage, etc. Au bout d'un moment, on va perdre en qualité, ce sera pas super, super top et ça va certainement s'en ressentir. Enfin, vous êtes une vraie équipe, vous fonctionnez bien a priori parce que le résultat est vraiment chouette.
Bah écoute, c'est très gentil en tout cas et t'insistes bien sur ce point-là. Je dirais que aujourd'hui, il y a eu une époque où la polyvalence était importante et je pense qu'elle l'est toujours. Il faut avoir des gens débrouillards qui maîtrisent pas mal de choses. Mais si tu veux vraiment aller plus loin, franchir un step, mettre des produits qui en jettent, qui ont de la gueule, comme on dit, tu peux avoir des spécificités, des métiers, des qualités qui sont propres à chacun et en équipe, voilà, t'es forcément plus fort que tout seul.
Ouais, c'est clair. Bah, c'est valable dans le sport, mais c'est aussi valable dans tout contexte où il y a une équipe et le domaine professionnel, évidemment, il y a beaucoup de passerelles entre ce secteur-là, le monde de l'entreprise et le monde du sport. Dis-nous, Slim, une de tes journées type, ça donne quoi? Lever 5 heures, coucher 12 heures.
ça dépend des déplacements. Non, je dirais que une journée type, allez. Moi, ce que j'aime bien faire ou ce qui est idéal de faire dans ce métier, dans ce milieu, c'est le matin, c'est toujours bien de se faire une petite revue de presse, d'être au fait de ce qui se passe, pas que chez nous. Il faut vraiment être curieux. C'est aussi une bonne pratique pour avoir des idées. Vraiment regarder les autres clubs, ce qui s'est passé, parce que des fois, même sur un ancien joueur qui est passé à 3-4 ans, il a pu se passer quelque chose et ça te donne une... je vais te donner un exemple. Cet été, on avait notre ancien joueur, Lucas Ocampos, qui avait fini une rencontre au FC Séville, gardien de but. Ça a fait un buzz, je dirais, d'envergure mondiale. Et on s'est rendu compte, on s'est rappelé qu'on avait un rush il y a 5-6 ans de lui qui s'entraînait gardien. Donc on a pu rebondir là-dessus et mettre en place un contenu qui a fait des millions et des millions de vues. Donc voilà, le matin, c'est bien d'arriver, de se faire une petite revue de presse, de se faire un petit topo, une réunion, les idées, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Après, si tu as un entraînement le matin, bah, l'équipe de production va essayer d'être près de l'équipe pour, je dirais, capter du contenu. Et puis, dans une deuxième partie de journée, bah, justement, tu vas traiter ce contenu, tu vas passer en mode montage pour pouvoir le diffuser. Et souvent, après, bon, bah, tu as des réunions hein, très classiques, comme toutes les entreprises, réunion d'équipe, réunion avec d'autres services, pour voir un peu les divers besoins à tous les étages du club. Et voilà, après c'est des choses très classiques, mais veille active, reporting et analyse. Voilà un peu comment se structure une journée.
Ouais, on voit que dans ton travail, pour être performant, il faut que tu sois curieux, hein, faut que tu ailles voir un petit peu ce qui se passe autour de toi, chercher un petit peu des actualités, etc. Et puis des mises à jour, j'imagine aussi des évolutions de techniques sur les réseaux sociaux aussi, les nouveaux comportements, etc. pour adapter ensuite ton travail, tes vidéos.
Complètement, on apprenait déjà ça à l'école. Je me rappelle, on faisait tous les matins, on avait des quiz d'actu et de culture générale. Parce que je pense que dans ce métier-là, si t'es pas curieux et au fait de ce qui se passe, t'as à peu près tout perdu. Déjà, indépendamment de tes qualités techniques. Et comme tu l'as dit, il y a aussi une innovation, une avancée technologique qui est telle que si tu te mets pas régulièrement à la page, sur les outils, mais aussi la façon, je dirais, de traiter les contenus. Aujourd'hui, en 2020-2021, on ne monte pas de la même manière qu'on montait il y a 7 ans. Donc si tu restes sur tes acquis, sur tes méthodes et que tu ne veux pas en sortir, tu peux rapidement être dépassé par les événements et hors du bon goût et hors de ce que veulent les gens sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
Ouais, ça fait une super transition, merci Slim, justement. Alors, on va parler technique, on va parler justement comment faire une bonne vidéo, quelles pourraient être tes astuces. Je vais juste noter le point que tu viens de mentionner. On a tout à l'heure évoqué les types de contenus, voilà, qu'est-ce qu'on peut publier sur les réseaux sociaux. Alors, on avait un petit peu transposé au monde de l'entreprise en disant les personnes qui arrivent dans votre équipe, les coulisses de votre entreprise, les vieilles campagnes, etc. Mais tu as parlé de Lucas Ocampos, effectivement, qui est devenu gardien de but un peu malgré lui. Voilà, super opportunité. Slim et ses équipes regardent, se rappellent d'un rush il y a quelques années. Hop, ils republient et ça fait quelques millions de vues. Ça s'appelle le newjacking. On rebondit sur l'actualité, sur un fait d'actualité. On en tire une opportunité pour en faire de la com. C'est aussi une bonne pratique que vous pouvez reproduire sur vos réseaux sociaux. J'aurai l'occasion de faire un podcast là-dessus parce que le newjacking, c'est une super technique. Ça peut être vraiment efficace quand c'est fait intelligemment avec créativité. Alors, la transition, justement, merci Slim pour la technique. Je voulais aussi avoir tes astuces pour des vidéos réussies. Alors, évidemment, moi, comme mes auditeurs, on n'a pas les mêmes moyens qu'un professionnel. On n'a pas forcément des équipements qui coûtent très cher. Et puis, on n'a pas non plus les équipes forcément autour. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour que chacun d'entre nous puisse faire malgré tout des vidéos qui aient du succès, qui soient performantes ?
Question pas évidente, parce qu'il y a tellement de formats, tellement de possibilités, mais d'une manière générale, on l'a un peu évoqué, ce qui marche aujourd'hui, c'est les formats plus courts. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des longs formats ou que ça peut ne pas marcher, mais la grande tendance sur le digital, c'est les formats courts. Je te citais l'exemple des reels sur Insta qui font 30 secondes ou des stories qui font 15, donc ça reste quand même... De la même manière qu'on dit que 80% des contenus aujourd'hui sont de la vidéo, je dirais qu'une très grande majorité des contenus vidéo sont courts. Donc ça, c'est quand même la première astuce, d'une manière générale. Après, ce qui marche bien, il n'y a pas de secret, c'est la bonne idée, l'humour, c'est toujours bien vu, mais aussi la spontanéité. Moi, après, c'est quelque chose que j'essaie de retranscrire dans mes productions, mais voilà, tout ce qui est spontané marchera toujours mieux, même pas forcément hyper qualitatif en termes d'image, ce qui répond aussi à ta question sur le côté professionnel, matériel. Tu peux faire des cartons avec un smartphone sur pas hyper bien filmé, pas hyper stable, mais tu peux faire des millions de vues si tu as la spontanéité, si tu es là au bon endroit, au bon moment. Voilà, moi je suis pas hyper fan des choses hyper scriptées, pas naturelles. Donc voilà un peu des ingrédients pour une recette efficace, c'est des choses courtes, pertinentes, créatives et puis et spontanées, voilà.
Format court, c'est quoi, Slim ? C'est moins d'une minute, moins de deux minutes, c'est quoi, court ?
Ouais, déjà, je dirais même 30 secondes, ça peut commencer à être long. Sur le format d'une minute, il y a un peu un piège, c'est que tu vas être trop long en fait sur certaines plateformes, c'est déjà trop long. Et en même temps, avec une minute, tu vas être presque trop court pour des plateformes type YouTube ou Facebook qui préfèrent les formats longs. Donc c'est un format un peu bizarre, une minute. Hein. Vraiment, ce qui marche bien aujourd'hui, nous on le voit, c'est les reels de 30 secondes. C'est une durée qui fonctionne très bien aujourd'hui.
Alors ce que tu nous dis, Sim, pour résumer, c'est deux conseils qu'on retient de son partage d'expérience. C'est les deux C, faut être court. Voilà, plutôt un format inférieur à 30 secondes. Au-delà de 30 secondes, ça va demander peut-être un petit peu plus de réflexion et on va perdre du coup en spontanéité. C'était le point qui était mentionné également. Donc format court, inférieur à 30 secondes, qui donc peut jouer à la fois sur l'humour quand on peut. Hein. Si vous êtes une entreprise sérieuse, c'est un peu plus compliqué, mais la spontanéité marche toujours et c'est vrai que c'est le carton des stories, notamment sur Instagram. Et le deuxième C, donc après court, c'est créatif. Ça, par contre, personne ne peut faire l'abstraction de ça. Quoi qu'il en soit, il faut toujours être créatif, il faut sortir du cadre, en fait, Simon.
Si on peut, oui. Les idées, pour moi, sont à l'origine de tout. Et là, pour élargir, pour sortir du football, je pense que c'est valable pour tout type d'entreprise. Il y a plein de très belles marques. Je prendre comme exemple, moi j'aime beaucoup ce que fait Burger King sur le digital, ils sont exceptionnels. Voilà, ils sont créatifs, ils sont marrants et du coup, grâce à ça, ils boostent leur notoriété, leur image de marque. Donc voilà pourquoi moi je suis relativement fan de tout ce qui est humour, spontané. Ça amène toujours une touche très appréciable.
Alors, tu me fais penser à un grand orateur qui s'appelait Winston Churchill, et Churchill disait « Toutes mes prises de parole spontanées ont au moins été répétées 3 fois. » C'est-à-dire qu'il pouvait donner l'impression d'être dans l'improvisation, et c'était comme Steve Jobs. Steve Jobs faisait pareil, il préparait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le conseil que tu pourrais nous donner, comment tu travailles, toi, Slim? Est-ce que, même sur des formats courts de 20 à 30 secondes où tu nous dis il faut être spontané, hein, est-ce que tu travailles un peu le scénario ou est-ce que tu y vas comme ça, tu prends ta caméra et hop, tu filmes d'un coup parce que tu as une inspiration?
Tout dépend. Tout à l'heure, je t'ai pris l'exemple du joueur qui signe, hein, c'est un exemple parmi d'autres, mais là, on va être dans une phase de réflexion, il va falloir trouver une histoire. Donc là, on va être sur quelque chose de très élaboré, de très recherché, qui a du sens. Par contre, inversement et à l'opposé, quand tu es dans un vestiaire et que ton équipe a gagné, là, à ce moment-là, tu es totalement dans la spontanéité, je dirais presque l'improvisation, il n'y a pas de place au calcul. Tout dépend simplement ton produit et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu me demandais sur les types de contenu, c'est pour ça qu'il faut varier et qu'il ne faut pas se cantonner à une seule chose parce que selon ce que tu vises, ben... Soit tu as une approche spontanée, soit effectivement il peut y avoir un énorme travail de réflexion avec plus de storytelling.
Le storytelling, ça aussi, là si on en parle, on va ouvrir la boîte de Pandore, on va faire 2 heures. Mais juste aussi un conseil que tu pourrais peut-être nous donner, parce qu'on a envie un petit peu de profiter de ton expérience. Comment tu organises, même quand c'est spontané, je ne sais pas si tu montes du coup ces formats-là, mais est-ce que tu recommandes de garder un peu de suspense comme dans un bon film où on dévoile tout à la fin? Ou est-ce que tu es plutôt de l'école qui dit il vaut mieux mettre le plus important au début?
Aujourd'hui, il faut une accroche forte. Ça, c'est indéniable. C'est vrai que les habitudes ont changé. Avant, comme tu le dis, à l'école ou de manière générale, il y avait une construction qui était faite de manière chronologique. On amène son histoire pas à pas. Mais aujourd'hui, si tu mettais ta meilleure image en toute fin de ta vidéo, qui par exemple fait 1 minute ou 2 minutes, peu importe, t'aurais de grandes chances pour que 90% de ton audience ne l'ait même pas vue, cette image. Donc tout se joue vraiment dans les 2-3 premières secondes. Si tu n'es pas capable d'accrocher et surtout de faire rester ton téléspectateur, pareil, t'as à peu près tout perdu.
Ouais, donc on comprend que c'est comme dans l'écriture web, hein, pour ceux qui sont un petit peu en web marketing, qui s'y connaissent un petit peu, on parle de pyramide inversée. À l'école, effectivement, on nous a appris à faire de la thèse, antithèse, synthèse ou une rédaction avec un déroulement. Et puis tout à la fin, on avait, comme dans les bons films à Hollywood, on avait la scène finale où on apprend finalement qui est l'auteur du vol. Mais toi, ce que tu nous dis, c'est plutôt de mettre l'essentiel au début parce que vu le temps d'attention très très réduit des internautes, il y a peu de chances qu'ils aillent pour la grande partie jusqu'au bout de la vidéo et du coup, ils perdraient l'essentiel du message.
Exactement. Okay. Il faut que tu fasses passer. Du coup, ça, c'est vraiment encore plus valable pour tout type d'entreprise. Il faut vraiment être capable de faire passer son message, ses infos principales rapidement et dans un temps, on en revient à ta question de la durée idéale, dans un temps le plus court possible.
Mmh. Ouais, c'est peut-être des bonnes pratiques qu'on doit peut-être appliquer du coup dans nos coms. Alors, Slim, qu'est-ce qui fait une bonne vidéo, une vidéo réussie? C'est quoi? C'est la qualité de l'image? C'est la qualité du son? C'est le scénario? C'est quoi l'ingrédient le plus important?
Ah, c'est un peu tout. C'est difficile de répondre aussi à cette question parce que tout dépend aussi des sensibilités de chacun. Une personne qui est très artistique, elle va plus juger sur la qualité de l'image. Il y en a qui vont juger sur ta performance pure, sur tes vues, sur ton audience. Moi je te dirais que le produit parfait, enfin ou quasi parfait, c'est celui qui arrive à maximiser un peu toutes ces petites choses là, tous ces détails. C'est la bonne idée avec la belle image, la bonne musique, les bons bruitages, les bonnes ambiances, le bon format. Il faut vraiment, y a vraiment dans la chaîne de la vidéo, je dirais 6-7 paramètres clés, et même au-delà de la vidéo en elle-même, la partie distribution. C'est que je vais même aller plus loin, si tu as la meilleure vidéo du monde, mais qu'elle est mal distribuée, avec un mauvais wording ou la miniature qui n'est pas la bonne, possiblement cette vidéo deviendra entre guillemets mauvaise. Donc c'est vraiment dans la chaîne, prendre tous les détails, et le but c'est que tout s'imbrique parfaitement.
Ah, c'est un travail d'expertise, hein. C'est un travail de haute définition, là, si on te comprend bien. En fait, une bonne vidéo, c'est comme une bonne recette de cuisine, quoi. Il faut doser parfaitement chaque ingrédient, quoi. Si on fait un bon gâteau au chocolat, qu'on a bien dosé les œufs, le sucre, la farine, mais qu'on se rate complètement sur le beurre ou le lait, même si on a bien réussi les trois autres, le fait qu'un seul ingrédient soit mal dosé, ça va gâcher tout le reste.
Quasiment. Surtout qu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu. Je vais presque dire que c'est la guerre des contenus, donc il faut vraiment être bon dans toute la chaîne, en tout cas maximiser chaque petit détail.
Tu travailles vraiment avec du matériel super professionnel, ou est-ce que tu travailles aussi avec du matériel qu'on peut un peu tous reprendre aujourd'hui, comme un smartphone, de bonne qualité évidemment, mais tu travailles avec quoi ?
Les deux, tout dépend de ton contexte. Évidemment, dans un club de foot, on a du top matériel. Des belles caméras, des drones, etc. Donc on a ce qu'il faut. Mais comme je te disais, selon l'environnement dans lequel tu es, un smartphone aujourd'hui, et Dieu sait que la technologie a avancé de manière exceptionnelle, tu peux faire des belles choses. L'avantage du smartphone, c'est encore une fois, c'est la spontanéité. Des fois, tu es dans une situation où tu as besoin de réagir vite, dans les 5 secondes, et typiquement avec du gros matériel ou t'auras simplement pas le temps de réagir. Donc moi, il m'est arrivé dans la précipitation, par nécessité, oui, de travailler même de plus en plus régulièrement avec le smartphone. Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas capable de sortir de la qualité, loin de là.
Bon, je crois qu'on a tous les ingrédients à présent pour faire des vidéos qui peuvent être sympas. En tout cas, peut-être qu'on peut apprendre on peut prendre de bons conseils ici pour changer peut-être sa façon de faire. En tout cas, on a compris que plutôt court, hein, plutôt format réduit. Malgré tout, il faut être créatif. Ça, c'est la base de tout. Il faut être spontané, il faut être naturel, il faut être le moins mécanique possible. Et évidemment, vous comme moi, hein, vous utilisez les réseaux sociaux et c'est certainement les contenus que vous regardez le plus et que vous likez le plus. Alors justement, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'évolutions. Tu l'as dit tout à l'heure, Slim, que dans ton métier, il faut être curieux, c'est la base de tout, et c'est vrai qu'on l'enseigne ça dans les écoles aussi, d'être vraiment à l'affût, à l'écoute de tout ce qui se passe aujourd'hui, aussi bien dans l'évolution du comportement des internautes que des nouvelles plateformes qui arrivent. Et il y en a un petit dernier là qui fait beaucoup de bruit, c'est le cas de le dire. Il y en a un qui est en train de prendre beaucoup de place en ce moment. L'année 2020 était l'année TikTok. TikTok a tout explosé l'année dernière. C'était vraiment l'étoile filante. Cette année 2021 semble être l'année de Clubhouse. Alors, il y a une petite particularité dans ce réseau social, si vous ne le connaissez pas, c'est qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas non plus d'image et il n'y a pas non plus de texte. Alors ça change beaucoup de choses. Il n'y a que du son, c'est que de la voix. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Slim ? Est-ce que tu penses que ça, il y a un potentiel, il y a un avenir possible ? Ça va remplacer Facebook, Instagram, TikTok ? C'est quoi ton point de vue ?
Alors, remplacer telle ou telle plateforme, je t'avoue que j'ai pas la réponse. De toute façon, dans cet univers, je pense que personne ne l'a vraiment. Il y a des réseaux qui arrivent, qui derrière disparaissent, etc. Effectivement, Clubhouse, très à la mode. D'une manière générale, le son, effectivement, c'est quelque chose qui est bien revenu en force aussi ces dernières années. C'est un média, un outil qui reste très apprécié. Après, pour être totalement honnête, moi, je me suis pas encore intéressé à 100% à Clubhouse, donc je serai pas le plus grand spécialiste pour en vanter les mérites, du moins, mais effectivement, le son reste un outil qui a tendance à bien revenir en force ces dernières années.
Alors on le voit avec les assistants personnels, hein, bon, qui ne marchent pas trop bien en France pour des histoires de données, confidentialité, mais on voit qu'il y a eu des assistants personnels. Et puis il y a le format podcast, hein, qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. D'ailleurs, vous êtes en train d'écouter un podcast, donc vous êtes sensible au son. On verra bien si Clubhouse est juste un petit feu de paille ou ce sera vraiment une révolution profonde à suivre. En tout cas, Slim, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je te remercie vraiment beaucoup.
Écoute, merci à toi, merci pour l'invitation, c'était un grand plaisir d'échanger.
Non, bah j'espère qu'en tout cas, le contenu aura plu à nos auditeurs. Il y en a beaucoup qui aimeraient, bien sûr, un petit peu suivre la même carrière que toi, le même ton parcours, hein, d'être journaliste ou d'être dans la communication, dans le social media, dans un club, par exemple, dans une grosse structure. Est-ce que, justement, tu pourrais nous expliquer quelles études tu as suivies, quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait avoir un petit peu ta place, peut-être?
Bah écoute, moi j'ai suivi des études de droit et surtout j'ai fait une école de journalisme. Donc c'est une voie qui marche très bien. Il n'y a pas de voie royale, il y a plusieurs options. Tu as aussi une option peut-être pour des profils plus techniques. Il y en a beaucoup qui viennent au niveau de la vidéo, du monde par exemple, d'un BTS audiovisuel. Après voilà, c'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est des profils. Je pense qu'en venant d'une école du journalisme, comme tu vas avoir un profil plus aiguisé sur les codes, la communication, la compréhension vraiment de ton environnement, d'une équipe sportive. Et si tu as plus un penchant pour vraiment le montage pur, la caméra, etc., tu peux effectivement te diriger vers une école vraiment de télé où tu vas rentrer peut-être plus en profondeur dans la technique. Après, ça dépend des sensibilités de chacun.
Ouais, donc il y a deux types de profils, c'est ça? Il y a les généralistes et les spécialistes, comme chez les médecins?
Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Après, forcément, on en revient à la notion de polyvalence. Tu vas tout apprendre, etc. Mais selon tes goûts, selon tes aptitudes, tu retrouves effectivement, je dirais, deux types de profils, d'une manière générale.
Bon, ben en tout cas, j'espère que ça aidera certains de ceux qui nous écoutent à peut-être faire des choix hein, dans leurs études. En tout cas, merci beaucoup, Simon, encore une fois. Je vous mets le lien vers les réseaux sociaux de l'AS Monaco et vers le site internet asmonaco.com où vous avez ensuite une passerelle vers tous les comptes sociaux de l'ASM. Allez voir ce qu'ils font. Franchement, c'est du super contenu. Vous allez trouver de l'inspiration, allez regarder un petit peu, allez déchiffrer, allez décrypter le travail de Slim et des équipes de l'ASM. Regardez un petit peu comment ils montent, comment ils séquencent leurs vidéos, les types de scénarios, même quand c'est spontané. Il y a certainement plein de super trucs, tips et astuces à reprendre pour notre com. Merci encore une fois Slim, je te dis à bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison?
Bon, je dirais simplement... de la réussite sportive pour l'AS Monaco, de bons résultats, que tout continue à bien se passer sur le terrain, on sera très content.
Bon, bah, tout le meilleur pour la fin de saison, en tout cas, si vous pouvez aller taper un podium, et c'est franchement à votre portée, bah, on sera, voilà, je serai le premier à être content pour vous, et je pense que je ne serai pas le seul.
Merci beaucoup.
Salut Slim, à bientôt.
Salut, à bientôt.
Salut.